les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, nous sommes des élèves de l'atelier Relais. Nous sommes issus de plusieurs collèges du département. Nous avons entre 13 et 15 ans. Nous allons vous présenter les métiers que nous avons cherchés. Pour ça, nous allons vous diffuser ce que nous avons enregistré auprès de professionnels. Je donne la parole à Alexis.
Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 13 ans et je vais vous présenter le métier d'éleveur bovin par une interview qu'une professionnelle m'a accordée. Cette personne est directrice d'une exploitation agricole. Elle a accepté de répondre à mes questions. Nous allons l'écouter. Bonjour.
Bonjour.
Pourrais-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr.
Pouvez-vous me dire quel est votre prénom, s'il vous plaît ?
Donc, je m'appelle Caroline.
Quel est votre métier ?
Donc, je suis responsable d'une exploitation agricole.
Quels produits fabriquez-vous ?
Donc, sur notre exploitation agricole, on a différents ateliers. Un atelier volaille, donc avec des poulets de chair qu'on vend en vente directe. Donc, on vend en fait des poulets prêts à cuire. On a un atelier bovin, donc c'est des bovins lait. Et on vend le lait à la laiterie, mais aussi en vente directe. Et puis, on a un atelier grande culture avec des céréales.
Êtes-vous votre propre patron ?
Non. Alors, la particularité de la ferme, c'est que c'est une ferme publique, donc qui appartient à l'État. Et de ce fait, je suis fonctionnaire. Donc, la ferme ne m'appartient pas, je suis juste en poste de responsable de cette ferme.
D'accord. Quelles sont les missions ou les tâches réalisées par un éleveur bovin ?
Alors, un éleveur bovin doit réaliser diverses tâches, donc prendre soin de ses animaux, déjà pour éviter d'avoir des maladies ou d'autres choses, donc que les animaux soient en bonne santé. Et ensuite, il faut qu'ils produisent aussi. Donc, si c'est des bovins laitiers, c'est pour faire du lait. Donc, en gros, on prend soin des animaux pour qu'ils soient en bonne forme, mais aussi pour qu'ils produisent du lait et du lait de qualité et en quantité. Et si c'est une ferme de bovins allaitants, donc bovins allaitants, c'est pour la viande, là, on ne va pas leur demander de produire du lait. Donc, c'est plutôt pour que les vaches puissent se reproduire, qu'on ait des veaux, et comme ça, on peut vendre la viande. Donc, les tâches qu'on va accomplir, au final, ça va être nourrir les animaux. S'ils sont sur de la paille, il faut changer la paille fréquemment pour éviter tout problème sanitaire. Il faut, si c'est des vaches laitières, il faut les traire. Et voilà.
Êtes-vous propriétaire de votre ferme ?
Donc non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une ferme d'État, donc elle appartient à l'État.
Avez-vous des employés ?
J'ai 3 salariés à temps plein qui travaillent sur l'exploitation. Donc 2 sur l'atelier bovin, plus volaille, et 1 qui est plutôt sur le travail en plaine.
Quelle étude faut-il faire pour devenir un bon éleveur bovin ?
Alors, on peut faire plein de sortes d'études différentes, donc principalement en lycée agricole. Il y a des bacs pro, mais on peut aussi continuer sur un BTS. Donc, bac pro, ici, dans ce lycée, il y a le bac pro CGEA, conduite et gestion des exploitations agricoles, donc qui permet d'avoir de bonnes bases. Et on peut continuer avec un BTS. Donc BTS AXE, analyse et conduite de système d'exploitation. Donc c'est un peu plus poussé et ça permet aussi de reprendre des exploitations. Après, il y a aussi des formations en apprentissage au CFA, mais aussi au CFPPA. Donc c'est un brevet professionnel REA. Donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Donc c'est un brevet qui permet de reprendre une exploitation agricole. Et puis après un BTS, par exemple, on peut continuer sur une école d'ingénieur en agronomie qui permet aussi de continuer de faire de l'élevage. Mais c'est pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là.
Quel nombre maximal d'animaux peut-on avoir ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'il existe un nombre maximal. Après, c'est une question d'éthique et de surface disponible pour les animaux. Donc, quand on n'a pas beaucoup de surface, bah forcément, on ne prend pas beaucoup d'animaux. Parce que d'abord, il y a le bien-être animal. Si les vaches, elles sont les unes sur les autres, c'est pas génial pour elles. Et puis, niveau sanitaire, c'est pas bien non plus. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le problème d'éthique sur la production intensive aussi. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la ferme des 1000 vaches. Donc, c'est un projet de ferme qui avait été... Enfin, non, pas réalisé, mais prévu. Et qui ne s'est pas fait parce que c'était beaucoup trop, une structure beaucoup trop grosse et que ça n'a pas convenu à tout le monde. Voilà.
Comment peut-on se lancer dans le métier d'éleveur bovin ?
Alors bah, pour se lancer, il faut trouver un élevage. Donc soit le créer toute pièce, qui est très difficile, enfin ouais, ce qui est plutôt difficile, on va dire, soit se mettre en association avec un autre éleveur. Donc plus ou moins jeune, donc soit on se met en association dans le but de rester en association tout le long de sa carrière, soit on se met en association le temps que l'autre personne prenne sa retraite. Et à ce moment-là, après, on aura récupéré l'élevage.
Faut-il être forcément fils ou fille d'agriculteur ?
On n'est pas obligé. Donc par exemple, là, dans le lycée, il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient reprendre des fermes qui ne sont pas fils d'agriculteurs ni filles d'agriculteurs. Donc c'est pas nécessaire. Après, ben, ça aide un petit peu quand même pour la reprise de la ferme familiale, quand on est fils ou fille d'agriculteur.
Faut-il un gros capital pour racheter un corps de ferme et le matériel nécessaire et les terres ?
Alors pour cette question, c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre parce que je ne suis pas du tout dans cette situation, mais je pense que oui quand même, parce que les terres ne sont pas forcément bon marché, ça dépend des régions, et puis ben, tout ce qui est matériel, il faut aussi ça a forcément un coût, donc plus le matériel est gros, plus il est cher.
Quel matériel faut-il pour élever les animaux?
Alors pour élever les animaux, il y a possibilité d'avoir du matériel ou d'avoir beaucoup de matériel ou d'en avoir très peu. Ça dépend comment est géré l'élevage. Donc, par exemple, pour l'alimentation, on peut utiliser une mélangeuse. Donc, on a un tracteur avec une fourche pour attraper les aliments. On les met dans la mélangeuse qui les broie et les mélange, du coup. Et après, ça permet aussi, si elle fait distributrice, ça permet de la distribuer l'alimentation. Donc, c'est comme une remorque qu'on traîne derrière un tracteur et qui donne à manger la vache, enfin aux vaches. Et puis, donc, il y a ce type de matériel. Il y a aussi on peut avoir une pailleuse. Donc, soit on paille à la main, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de matériel, soit on a une pailleuse. Donc, on y met la boule de paille et puis il y a un souffle qui envoie la paille sur l'air à pailler. Donc, il y a ce matériel. Pour des bovins laitiers, il faut une salle de traite. Une salle de traite plus ou moins automatisée. Et dans certains élevages, il y a même des robots de traite. Donc les vaches viennent toutes seules au robot, qui les branche. Et puis il y a juste besoin d'un travail de surveillance.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce métier ?
Alors, je travaille dans ce métier depuis septembre dernier, septembre 2014, donc c'est tout récent pour moi.
Quel est le salaire d'une personne au début de son parcours professionnel ?
Alors, là, pour cette question, c'est pareil, je suis dans un cas particulier, étant donné que je travaille dans une ferme publique, je suis fonctionnaire, donc je ne vais pas forcément avoir le salaire de quelqu'un qui est exploitant dans une ferme privée. Après, bah, si ça vous intéresse quand même, je peux vous dire mon salaire. Je suis à 1 800 € net par mois.
D'accord. Bah, merci d'avoir répondu aux quelques questions. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, vous aussi.
Nous venons d'écouter l'interview avec Caroline et je voudrais la remercier car c'était une personne très sympa. Cette interview m'a fait connaître beaucoup de choses supplémentaires. Je donne la parole à Lumila.
Bonjour, je m'appelle Lunmila, je suis au collège de Conches. J'ai 13 ans et je souhaite devenir mécanicienne pour automobile. Pour cela, je suis allée rencontrer un professionnel, Ludovic, chez Noroto depuis 15 ans, en tant que chef d'atelier responsable des ventes. Il a fait un BTS électronique. Noroto possède 280 magasins en France, dont celui d'Evreux, où il y a 11 personnes, un chef d'atelier et deux ventes, un directeur, 5 mécaniciens et 4 vendeurs. Leur matériel préféré est le pistolet pneumatique, autrement dit pétard. Il sert à démonter des roues ainsi que les outils qui permettent d'accélérer le travail. Le salaire d'un débutant est environ le SMIC, mais il peut être plus important selon les études. Ils bénéficient d'un 13e mois. Ils ont plusieurs avantages tels que la mutuelle, des primes, des tickets de resto. Oui. Les emplois se font nombreux, les contrats souvent en CDI. Les horaires de travail sont adaptés à la zone commerciale, ici 8h30-19h. Le diplôme recommandé est un CAP mécanicien minimum. Il y a un établissement à Évreux qui le prépare. Chez Noroto, ils recrutent leurs salariés selon leur motivation et les forment en tant que leur institut privé, peu importe leur niveau. L'évolution salariale est possible en devenant chef d'atelier et même son propre patron. Les voitures réparées chaque jour sont environ de 6 à 8 personnes par mécanicien. La principale demande est sur les pneumatiques. Je lui ai demandé de me raconter un souvenir, j'en ai choisi un parmi tant d'autres. Un couple ramène leur voiture pour une révision. En ouvrant le capot, ils découvrent un chat qui dormait bien au chaud. Cette rencontre m'a permis de connaître plus de choses sur leur métier ainsi qu'il faut s'attendre à tout. J'espère que mon intervention vous aura plu et fait découvrir ce métier.
Merci Lunmila, c'est très intéressant parce que la spécificité et la particularité de ce que nous venons d'entendre, c'est qu'en fait tu as réalisé cette interview, le monsieur était un peu impressionné par le micro, hein, t'aurais dû avoir une interview audio hein, comme tes camarades, sauf que là en l'occurrence t'as dû la réécrire sur papier, c'est un grand exercice et qui n'était pas simple, et donc voilà, cette particularité était quand même à préciser. Effectivement ça t'a plu, alors du coup bien appris des choses, bien reçu, bien accueilli.
J'ai appris plus de choses sur le métier, et puis je sais qu'on peut s'attendre à tout.
Eh ben voilà, c'est dit, c'est fait. Merci beaucoup, Lunmila, pour cet exercice et cette petite enquête et interview réalisée, mais voilà, qui aurait dû être audio, mais qui s'est transformée en papier, parce que le monsieur était impressionné et un petit peu gêné, mais il a répondu à tes questions, et c'est bien là l'essentiel. Merci, je crois que tu veux donner la main à un camarade, hein, c'est ça hein.
Je donne la parole à Wesley.
Bonjour. Je vais vous présenter l'interview que j'ai interprétée auprès d'un boulanger qui travaille du pain au pain d'entente, qui est une boulangerie du centre-ville. Il a accepté de répondre à mes questions. Je me suis déplacé pour l'interroger et je vous diffuse l'interview maintenant. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je m'appelle Kevin, je suis boulanger au pain d'entente à Évreux.
Dans quel domaine professionnel travaillez-vous ?
En domaine de la boulangerie, pâtisserie.
Quel poste occupez-vous ?
Boulanger.
Quelle est la taille de votre boulangerie ?
C'est une boulangerie moyenne à peu près. On est à peu près 9 ouvriers. Donc 5 en vente et 4 au labo.
Faites-vous de la boulangerie ou de la pâtisserie ?
De la boulangerie.
Avez-vous une spécialité ?
On en a plein en fait. On n'a pas vraiment, mais on a plein de pains variés quoi en fait.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
Ça fait 7 ans que j'exerce ce métier.
Quel est le salaire d'un débutant ?
Tout dépend. Quand vous allez commencer au CAP, vous êtes payé selon le SMIC. Donc c'est 35 à 40% du SMIC. Après ça évolue selon l'âge et selon l'âge que vous avez en fait. Et après tout évolue. Selon le métier, l'expérience, le poste que vous occupez, voilà.
Y a-t-il des possibilités de promotion ?
On peut venir responsable boulangerie ou alors avoir son magasin, être patron.
Quels sont les horaires de travail ?
Alors les horaires de travail, c'est soit de nuit, soit de journée, ça dépend d'où la boulangerie est située. Ça dépend du patron.
Y a-t-il beaucoup de débouchés sur le marché d'emploi ?
Il y a pas mal de... C'est un métier qu'on arrive souvent à trouver du boulot, en fait.
Quel parcours scolaire avez-vous suivi?
Alors moi, j'ai suivi une formation de CAP au CFA du Val-de-Reuil. Voilà.
Connaissez-vous un établissement qui prépare le diplôme CFA, lycée, MFR?
Oui, au CFA du Val-de-Reuil.
Les congés sont-ils fréquents?
Oui, on a 5 semaines de vacances par an.
Avez-vous déjà réalisé des gâteaux de mariage?
Moi, je suis pas pâtissier, donc moi non, mais mes collègues oui.
Avez-vous déjà réalisé des pains géants ou des produits spectaculaires?
Oui, des pains géants, on en a fait à 2 mètres.
Pouvez-vous nous faire partager un souvenir marquant?
Souvenir marquant, les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà.
Bon. Merci d'avoir accordé du temps.
Bah de rien, je vous remercie.
Au revoir.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur la vie d'un boulanger. Pour ma part, j'ai appris des choses sur le métier de boulanger. Je vais donner la parole à Jean-Philippe.
Bonjour, moi je m'appelle Jean-Philippe et je vais vous présenter le métier de couvreur.
Eh ben voilà, on va présenter tes recherches hein, et tes démarches, ami Jean-Philippe. Alors, ce métier de couvreur, quelle en est un peu la nature? Qu'est-ce que c'est clairement, s'il te plaît?
Bah, il réalise des toitures, il répare les toitures d'immeubles ou des maisons individuelles. Il peut aussi effectuer la pose d'isolation thermique sous toiture, de même que des travaux de restauration de monuments historiques.
Très bien. Tu peux nous donner un peu quelles capacités ou quelles qualités sont nécessaires pour exercer cette profession, pardon?
Le couvreur connaît tous les matériaux et procédés de couverture, adapte leur utilisation au climat et aux traditions régionales. Ses connaissances en géométrie, en maîtrise et en dessin lui permettent de tracer des plans, de calculer la hauteur de recouvrement des tuiles, de déterminer le nombre des rangées.
Et puis il y a un petit peu le goût du risque, hein, je crois, dans l'histoire. Hein.
Le travail en hauteur exige naturellement de l'habileté, de la prudence, de l'endurance et le sens de l'équilibre. Enfin, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités sont des qualités très appréciées des employeurs.
Très bien. Les études et diplômes nécessaires, s'il te plaît, pour exercer ce type de métier?
Comme tout métier du bâtiment, l'acquisition au minimum d'un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, est indispensable. Donc pour devenir couvreur, il faut donc préparer en 2 ans après la 3e dans un lycée professionnel ou par apprentissage le CAP couvreur, le CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics. Il est ensuite possible de se spécialiser en 1 an en préparant la mention complémentaire Zingri, le BP couvreur ou le BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics. En 2 ans par apprentissage après un CAP ou un BEP, permettent d'acquérir une qualification professionnelle supérieure et une formation à la gestion d'entreprise.
Il y a plein de possibilités, on l'a bien compris. Les inconvénients en nature relevés, s'il te plaît, de ce job?
Les inconvénients, c'est le risque et les intempéries.
Principalement, on l'imagine bien, pour un couvreur. Et as-tu repéré si oui ou non il y avait des offres d'emploi dans le département au moment où nous parlons, toi et moi?
Bah, dans le département, il y en a 4.
Actuellement? Très bien. Et du coup, ce métier-là sur lequel tu t'es penché, est-ce que ça t'a appris des choses, ces recherches, ta démarche? Ou est-ce que tu savais déjà un petit peu l'ensemble des éléments qui sont relevés, que tu viens de partager avec l'ensemble des auditeurs?
Bah déjà, ça m'a plu, et puis ça m'a appris... Enfin, je savais déjà des trucs, mais ça m'a appris 2-3 choses. Et puis, voilà.
Et puis, voilà. Bah, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour tes recherches et tes démarches. Il s'agit de donner le micro à un de tes camarades, je crois, hein.
Donc, je vais vous donner la parole à Jean-Pierre.
Eh ben, Jean-Pierre, on t'écoute.
Bonjour, moi, c'est Jean-Pierre, j'ai 14 ans. J'ai été à la rencontre d'un responsable d'une coopérative forestière. Ce monsieur m'a expliqué le métier de débardeur forestier. Nous allons vous partager mon interview. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous me dire votre prénom?
Je m'appelle Stéphane.
Pouvez-vous me décrire votre profession?
Donc, moi, je suis gérant d'une société qui s'appelle la Sofomer et qui comporte 12 salariés. C'est une société d'exploitation.
Comment devient-on débardeur?
Alors, comment on devient débardeur? Souvent, il faut une volonté de la personne qui fait une école, une formation spécialisée de débardage, hein, une école forestière de conduite. Certains sont venus par d'autres d'autres endroits et parce qu'ils ont travaillé dans d'autres secteurs d'activité et ils sont venus à la forêt parce que ça leur plaisait, quoi. Voilà, ils ont une formation, on va dire, en interne, quoi.
Dans quelle zone géographique travaillez-vous ?
Alors, nous travaillons dans tout l'ouest de la France. On travaille dans 5 régions, et plus particulièrement en Normandie, Pays de Loire et Île-de-France, un petit peu en Bretagne.
Combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise ?
Donc, il y a donc dans les 12 salariés, il y a un responsable technique, il y a un bûcheron, et les autres personnes, ce sont des chauffeurs. Donc chauffeurs d'abatteuses, 3 chauffeurs d'abatteuses, et des chauffeurs de porteurs, plus spécialisés chauffeurs de porteurs, et un chauffeur de débusqueur. Voilà. Et moi-même, je travaille qu'à 20% pour cette société en tant que gérant, d'un point de vue général. Et il y a une secrétaire avec une responsable administrative qui travaille aussi à 20%.
D'accord. Quel est le salaire début de carrière et fin de carrière ?
Ça, c'est quelque chose de compliqué parce que, si vous voulez, quand on commence, c'est ce qui se dit, c'est qu'on commence par rapport au début, quoi. Ça veut dire que quand on commence, c'est normal, on n'a pas de formation, donc pas d'expérience, et on commence souvent à un prix de base, quoi, voilà, par rapport à la réglementation. Voilà, et après, c'est en fonction de l'évolution du salarié, de ce qu'il fait, du travail qu'il applique. Le salaire, c'est une chose, mais la première chose, c'est d'aimer son métier. Et souvent, les gens qui aiment bien leur métier, qui font bien attention à la qualité de leur travail, à l'entretien du matériel et bien sûr la rentabilité, seront récompensés de leur travail, quoi. Voilà.
Quelles sont les promotions possibles ?
C'est un choix. De devenir débardeur, c'est un choix. C'est le choix aussi du salarié et notre choix. C'est-à-dire que pour moi, dans notre entreprise, on a besoin de certains types de métiers. Hein, mais quand on voit que quelqu'un veut aller vers un autre choix de métier au sein de la profession forestière, on essaye de tendre, s'il a les compétences, parce qu'il faut aussi tout, la compétence, est-ce qu'il peut aller d'un point de vue géographique, etc. On peut soit le conduire vers une formation externe ou en interne tendre vers un autre type de métier. Voilà. C'est arrivé chez nous en interne de faire des promotions, formations par d'autres chauffeurs. Et là, il n'y a pas longtemps, on a recruté quelqu'un qui a changé de voie, qui était dans d'autres voies. Il n'avait jamais conduit, par exemple, de porteur. Et on lui a fait une formation interne et maintenant, il se débrouille très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une volonté de l'entreprise et du chef d'entreprise, mais aussi du salarié. Voilà. C'est des choses aléatoires. Voilà.
Y a-t-il des débouchés dans ce métier ?
Oui, il y a des débouchés, mais... Il y a beaucoup de débouchés, mais la première chose, il faut que la personne corresponde. Et dans ce qu'il faut correspondre, c'est si la personne aime la forêt, qu'il aime ce métier. Ce qu'il faut savoir, c'est un métier très prenant, il y a beaucoup de déplacements, des heures, tout ça. Donc c'est la passion, on va dire, qui l'emporte. Parce que quelqu'un qui n'aimera pas ce métier, faut qu'il choisisse une autre voie.
Quelles sont les études et les diplômes que vous proposez ?
Alors, nous, ce qu'il faut savoir comme chauffeur au jour d'aujourd'hui, on a un petit peu toutes sortes de personnes avec différents diplômes qui travaillent pour nous. Dernièrement, ce sont plutôt des gens assez formés qui ont des BTS carrément, donc ce qui pourrait être chauffeur, faut en être bien conscient. Mais nous, dernièrement, on a recruté des personnes qui avaient un diplôme d'un BEP mécanicien. La personne que je citais précédemment, qui n'avait rien à voir avec le métier de forestier, qui ne connaissait même pas du tout. Il avait travaillé sur des pelles dans l'agriculture, par exemple, dans la motoculture en mécanique. Hein, et donc, il s'y est mis. Mais le diplôme, comme je le disais précédemment, c'est très important parce qu'il faut un minimum de base. Savoir compter, savoir s'exprimer. On côtoie des clients, donc il n'y a pas que le métier de savoir conduire, hein, il faut un minimum de connaissances. Et c'est vrai que avoir une formation au moins de BEP est primordial. Voilà.
Quels sont les... Connaissez-vous un établissement qui propose ce métier, ce diplôme ?
Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ça dépend de ce qu'on veut faire et à quelle hauteur on veut le faire, quoi. Alors, effectivement, il existe 2-3 établissements, mais là, les cités, ça serait un peu compliqué parce que il faut un établissement en fonction du but de la personne et de ses compétences, quoi. Donc voilà, donc ça, je ne peux pas rentrer dans le détail sur le choix de l'établissement. Voilà.
Quels sont les horaires et les conditions de travail d'un débardeur forestier ?
Les horaires, c'est un métier très prenant, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose de fixe, hein. Donc souvent on se déplace pour aller sur les chantiers, et donc bien sûr il y a des heures, hein, ça c'est certain. C'est très aléatoire parce que des fois il y a des pannes de matériel, des chantiers à finir, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est des gens très motivés parce qu'ils aiment ce métier. Bien sûr, il y a des récompenses indirect et direct, mais voilà, quoi, c'est un métier qui n'est pas fixe, comme on pourrait dire dans l'industrie ou en usine, quoi, voilà.
Alors. Pouvez-vous me décrire, me partager un souvenir ou une anecdote ?
Sur quoi ?
Sur votre métier, débardage forestier.
Je vais me prendre mon cas particulier. Moi, à l'origine, je gère la filiale, on travaille essentiellement pour un donneur d'ordre dont je travaille essentiellement à 80%. Et donc moi, personnellement, moi et la mécanique, je ne connaissais pas du tout ce métier de porteur, d'abatteuse et tout ça, tout ce qui était mécanique. Et c'est vraiment quelque chose de très prenant. Donc on peut, même qu'on ne connaît pas, et on peut s'épanouir, on va dire comme ça, à faire un métier en tant que gérant, là, qui est très très vaste. Sur du matériel forestier, ce n'était pas du tout ma base, c'est venu un petit peu par défaut au démarrage. Et je vais vous dire, cette société a fortement grandi, elle s'est bien développée, et c'est très très intéressant, et de voir qu'il y a des gens dedans qui contribuent et que ça forme une bonne équipe, c'est très intéressant, quoi. Voilà.
Je vous remercie d'avoir consacré un moment. Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi, et en espérant que tu travailles dans la forêt et que tu aimes ça. Voilà.
Merci. Je tiens à remercier ce monsieur, il m'a éclairé sur ce métier. Il a été très, très sympa. Je laisse conclure mon ami Bastien.
Donc, bonjour, nous sommes les élèves de l'atelier relais. Nous avons fait une présentation de 5 métiers différents. Il y a eu des chroniques et des interviews de professionnels réalisées par mes camarades. On espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde.
Bye. Merci. Au revoir. Bonne journée.
À bientôt.
Ils sont super sérieux. C'est la fin là. C'est le moment, les dédicaces, les clins d'œil. Non, pas plus que ça.
Non.
Alexis, Ludmila, Bastien, Wesley, Jean-Philippe et Jean-Pierre, bravo à vous. Et voilà, amis auditeurs, auditrices, c'était leur première radiophonique ce matin dans le cadre de cette émission aux Ateliers Relais. Bye bye!